Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le journal consacré en fin de semaine son grand dossier au travail des très jeunes adolescents qui est en explosion actuellement en raison de la rareté de main-d'œuvre, évidemment. On en parle avec Alexandre Leduc de Québec solidaire qui attend avec impatience le projet de loi du ministre du Travail sur la question à la fin de ce mois. Mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique consti.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, pas gréviste cette semaine.
Non, retour au travail, faut laisser le temps à la négociation. Faut dire que c'est beaucoup une grève de l'enseignement en grande partie. Et que cette semaine, c'est la semaine de lecture. Donc, c'est un retour vraiment axé sur la négociation.
Bien, parlons maintenant du barreau aujourd'hui, parce qu'il y a le projet de loi numéro 8 de Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, qui touche à toutes sortes de questions juridiques, dont la nomination de notaire au poste de juge. Et le barreau s'y oppose. Encore une autre réforme, écris-tu, importante à laquelle le barreau s'oppose.
Oui, sans surprise, le barreau a publié son mémoire et il y a quelques extraits assez croustillants où il exprime, en cohérence avec sa mission première, qui est la protection du public, pourquoi, selon le barreau, c'est une mauvaise idée d'avoir des notaires au poste de juge à la Cour du Québec. Alors, il y a quelques perles dans ce mémoire. Avec un brin de mépris, on peut lire, j'oublie les guillemets, les compétences ou les habilités acquises en 10 ans d'expérience ne sont tout simplement pas comparables. Or, on sait tous que c'est le même baccalauréat, c'est la même formation.
Ben oui.
Ensuite, les deux professions vont dans des écoles professionnelles, mais la formation à l'école professionnelle de notariat est plus longue que celle à l'école du barreau.
Ah oui?
Oui, ça devient quand même difficile de prétendre que, ah oui, une fois qu'ils sont sur le marché du travail, parce qu'ils font pas le même type de dossier, alors que les deux professions ont des pratiques très, très, très diversifiées, donc on peut pas mettre tous les avocats dans le même bateau, puis on peut pas non plus mettre tous les notaires dans le même bateau. Mm-hmm. Et dire que cette expérience est tellement différente là, que ça conduirait à une impossibilité d'avoir des notaires au poste de juge. D'ailleurs, c'est un peu là tout l'intérêt de la réforme, Antoine.
Oui.
Quand on regarde là, un avocat qui devient juge, c'est quelqu'un qui toute sa vie a pratiqué le droit dans un contexte belliqueux, axé sur la procédure.
Le litige,
qu'est-ce qu'elle poursuit comme objectif de la réforme? Mais c'est justement de faire ce que les notaires font bien, mettre l'accent sur le fond des choses, moins sur la procédure, avoir une approche moins belliqueuse, régler plus de dossiers.
Puis le notaire, il doit prendre en considération les intérêts de toutes les parties. Hein? Il n'y a pas un client qu'il défend à la vie à la mort.
Ce qui le rapproche d'ailleurs de la posture du juge.
Ben oui.
Les notaires ont fait la preuve depuis longtemps qu'ils savent pas mal mieux que les avocats gérer les coûts et les délais d'un dossier. Là. D'ailleurs, la pratique du droit, là, c'est un modèle d'affaires, la pratique traditionnelle. Il faut bien l'admettre, les causes, les raisons qui expliquent pourquoi le système de justice a autant de délais, est autant engorgé, les causes sont multiples. C'est pas juste la faute des avocats. Mais les avocats peuvent pas dire qu'ils ne font pas partie du problème. Ils ont une petite part de responsabilité. Un bon avocat, là, par définition, il est un peu débordé, il est en demande. Donc, son carnet de dossiers est plutôt plein. Donc, il doit constamment, raisonnablement certes, mais demander devant le juge des délais pour être capable de concilier tous les mandats qu'il a. Mais surtout, un bon avocat, c'est celui qui sait défendre des causes difficiles, et puis notamment les avocats de la défense vont nous dire chacun a le droit à une défense pleine et entière, oui, peu importe le crime qu'il a commis. Ben, le bon avocat, lui, il va pratiquer l'art de la stratégie dilatoire. C'est-à-dire l'art de gagner du temps.
C'est ça.
De multiplier les délais pour mieux défendre les intérêts de ses clients. Mm-hmm. Donc, il y a de dire que de pratiquer le droit du litige, où justement la procédure devient une arme, je suis pas certain que c'est la meilleure école pour injecter dans notre magistrature une autre culture, une autre façon de gérer les délais.
Mais justement, à l'école, il n'y en a pas d'école de la magistrature chez nous. Ça pourrait être une occasion d'en créer une, non?
Oui, et moi j'irais d'ailleurs beaucoup plus loin là, que cette réforme. Là, c'est quand même une réforme importante parce qu'au Québec, on va avoir des juges qui vont avoir passé par la pratique du notariat, mais on pourrait vraiment aller plus loin et assumer notre part de tradition civiliste. Pourquoi pas créer une école de la magistrature,
oui,
comme on le voit dans tous les pays de tradition civiliste. C'est le cas en France, c'est le cas...
Parce qu'il faut le dire, il y a des notaries dans le reste du Canada, aux États-Unis ou dans tous les pays de la common law, mais les pays civilistes, il y a des notaires, c'est quand même un autre type de juriste. C'est propre à la tradition civiliste, comme le Code civil.
Ben le principal changement sur le plan de la magistrature dans les pays de tradition civiliste, c'est que pour devenir juge, c'est un choix de carrière qu'on fait tôt. Dès la formation, dès l'école. Donc, par exemple, au Québec, on pourrait avoir un genre de doctorat clinique ou professionnel, comme on le voit dans les professions de la santé, qui pourrait être créé pour des juristes qui, dès l'université, préfèrent se consacrer puis se dédier entièrement à la magistrature. Et donc, en France, on devient juge magistrat parce qu'on passe par l'école de la magistrature et on a... C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est pas mieux, c'est différent. Mais on a, dans les pays de tradition civiliste, une magistrature qui est une magistrature de carrière, qui dès la formation, fait ce choix-là. Donc, on s'épargne tous les épisodes, là, genre commission Bastarache, qui va nommer qui. C'est une carrière qui passe par une formation. Évidemment, on ne pourrait pas faire ça pour les cours de nomination fédérale, parce que ça demanderait une modification de la Constitution. Mais pour les tribunaux créés par des lois du Québec, on pourrait tout à fait prendre nos distances avec la tradition qui est la nôtre, qui est une tradition plutôt britannique, et épouser en partie le modèle continental européen.
En plus, les notaires sont bien cotés dans le baromètre des professions.
C'est là tout le paradoxe, hein? Parce que le mémoire du barreau, il cherche à expliquer pourquoi il faut... rejeter cette idée d'avoir des juges qui ont auparavant été notaires. Donc, ils doivent passer par un argumentaire technique. Donc, ils mettent de l'avant la, j'ouvre les guillemets, confiance du public dans le système de justice. C'est leur argument central. Or, quand on regarde le baromètre des professions, produit annuellement par la firme Léger Marketing, ben, ce qu'on voit, c'est que les notaires, en 2002, 87% de confiance, c'est 9 Québécois sur 10 parmi les professions les plus respectées. Les avocats s'en tirent bien, hein, 6 Québécois sur 10 en 2022, du moins, ça a baissé un peu en 2023. Mm-hmm. Mais tout ça pour dire que au jeu de la confiance du public dans l'administration de la justice, mais l'officier de justice dans lequel le public a le plus confiance, c'est le notaire. Donc, l'argument va pas très loin. Cela dit, si on veut être généreux à l'endroit du barreau, il a un savoir technique utile, mais là, ici, il fait comme un grand écart entre sa mission, la protection du public, et ses intérêts ou l'intérêt de ses membres qui va pas dans le sens de briser là, ce monopole d'accès à la magistrature. Comme souvent avec le barreau, quand il prend des positions très tranchées, on apprécierait là, qu'il le fasse à visage un peu plus découvert, où on distingue d'une part ce qui relève des arguments techniques ou juridiques, et ce qui relève, ils ont le droit, d'un désaccord avec des choix politiques. Quand ses membres sont en désaccord avec des orientations politiques, ils ont le droit de le dire, ils ont le droit de le faire, mais qu'on le fasse pas en masquant cela derrière un vernis ou une couche de technicité qui ne change rien.
Et Patrick, ce n'est pas la première fois là, que le barreau adopte des positions étranges, disons.
Ben écoute, Antoine, je ne sais pas ce que serait le Québec si on avait écouté le barreau. Il a été contre la loi sur la justice administrative. C'est normal, là, créer des tribunaux administratifs où on est représenté sans avocat, parlez-en ou l'ex-ministre Paul Bégin ou Agile Rémillard.
Ouais.
Ils ont été contre la création de la loi là, sur la société d'assurance automobile, le no fault, parlez-en à Lise Payette.
Ben oui.
Ils ont été contre la création de la Cour des petites créances ou à l'élargissement de sa compétence ou à la création de la commission des lésions professionnelles, aujourd'hui tribunal du travail. Récemment, j'écrivais pour un ouvrage à paraître sur la loi sur le financement des partis politiques, une loi importante dans
le était contre.
1977. Ben oui, t'es contre, t'es inquiet pour la liberté d'association et d'expression. Même chose avec la loi sur les consultations référendaires. C'est vrai qu'avec le barreau, ce sont des lois qu'on n'aurait pas. 2005-2006, ils étaient contre l'insertion dans la Charte québécoise du droit de vivre dans un environnement sain, et sans parler du dossier linguistique, là. Ils ont été récemment contre la loi 96. Contre la loi 101 initiale, contre le défunt projet de loi 14 de 2013,
oui,
de
oui.
Diane de Courcy, qui prévoyait un très inoffensif droit de vivre en français.
Hey, on était loin de la loi 96, là, avec le projet de loi 14 du gouvernement Marois.
Ben oui, et l'exemple du dossier linguistique est vraiment un bel exemple où le barreau mélange des considérations d'opportunité politique, ils ont le droit d'avoir des choix, des valeurs à promouvoir, et des arguments de technicalité juridique. Ils mettent tout ça dans le même pot, et ça donne parfois, on se rappellera, cette fameuse requête avortée où le barreau du Québec ou le barreau de Montréal, je me souviens plus exactement, mais l'un des deux, contestait la validité de l'ensemble de toutes les lois du Québec parce que les débats à l'Assemblée nationale n'étaient pas assez bilingues au goût du barreau. Bon, Dieu merci.
C'est le barreau du Québec.
L'Assemblée générale des membres du barreau a remis le barreau dans le droit chemin, mais comme quoi...
Mais ça a pris une révolte des membres, comme tu dis.
Oui, exactement. Et donc, il faudrait un jour faire la liste de toutes ces lois qui aujourd'hui sont perçues comme des avancées pour le Québec, sur lesquelles on voudrait jamais revenir en arrière. Et pour lequel le barreau nous disait à l'époque, faites surtout pas ça, c'est une mauvaise idée.
Au fond, on pourrait dire que le projet de loi 8 brise le monopole qu'a le barreau sur la magistrature?
Absolument.
Pour souvent, on milite au barreau pour justement se faire remarquer et accéder à un poste de magistrat.
Ben oui, il faut passer par 10 ans de la pratique du droit, là où justement, dans les pays d'Europe continentale, si on veut devenir juge, on peut le devenir déjà en début de carrière, dans des fonctions peut-être moins importantes, des juridictions plus modestes. Mais ici, le passage par le barreau est un peu un passage obligé. Le projet de loi 8 vient rompre avec ça, puis mettre un peu de diversité intellectuelle, parce que les notaires, avec leur profil, leur carrière, leur sensibilité à eux, vont venir changer un petit peu la façon dont la magistrature va travailler.
Merci beaucoup, Patrick Tarion. T'es pas membre du barreau, hein?
Ah, je l'ai cité, mais présentement, non.
OK.
Je suis entièrement dédié à ma carrière professorale.
Mais pas entièrement, parce que tu es aussi notre chroniqueur constitutionnel, même d'abord et avant tout. On se reparle la semaine prochaine.
Merci, Antoine.
Là-haut sur la colline. Embarquez avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
Le travail des enfants avec la pandémie et le vieillissement de la population, il y a rareté de main-d'œuvre, on le sait, on l'a constaté. En fin de semaine, le journal nous offrait un dossier sur le phénomène. On en parle avec Alexandre Leduc, député de Charlevoix-Maisonneuve de Québec solidaire. Bonjour.
Bonjour.
Et porte-parole en matière d'emploi, d'enseignement supérieur, de laïcité et de travail. Donc, le travail des enfants, Alexandre, je vous ai envoyé tout à l'heure un texto d'un extrait d'un grand poème de Victor Hugo, Mélancolia, où il dit « Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil ». Je vais dramatiser un peu là, pour lancer l'entrevue, mais est-ce qu'on est de retour au capitalisme sauvage qui rendait les enfants corvéables?
Je ne pense pas qu'on est nécessairement retourné au 19e siècle avec les enfants dans les mines, puis Germinal, là, si on se rappelle.
Pas besoin de convoquer Zola.
Non, voilà.
Après Hugo.
Par, Par contre, à défaut d'aller dans cet extrême, en quelque sorte, il y a quand même un phénomène qui est assez fort en ce moment.
Mais oui.
La massification et la normalisation du travail des très jeunes adolescents. On parle pas de 15 ou 16 ans. Là, moi, c'est à peu près l'âge où j'ai eu ma première job. On parle de 12, 13 ans, donc secondaire 1, secondaire 2.
Ah oui, c'était quoi votre première job, Alexandre?
Moi, j'étais arbitre de soccer.
Bon.
Puis après ça, j'ai travaillé comme petit animateur dans un musée, un musée d'histoire qui est malheureusement fermé aujourd'hui, le musée Stuart sur l'île Sainte-Hélène. Mais bref, mes collègues à l'époque, c'était à peu près ça aussi, hein, 14, 15, 16, qui commençaient leur job. Sauf que on a eu une recherche du CIUSSS de l'Estrie qui nous apprenait qu'alors que c'était marginal pour les secondaires 1 et 2, le travail avant s'est rendu la norme. Donc, on passait de 10-15% de gens qui travaillaient à 12-13 ans, c'est rendu en haut de 50%.
Mais ça s'est passé en un an, Alexandre, comment ça? C'est ça que je comprends pas. C'est tellement rapide comme transformation. C'est à cause de la pandémie, j'imagine?
Probablement. On a d'ailleurs demandé à entendre les chercheurs en commission parlementaire pas plus tard que la semaine dernière. Là, c'est ma collègue Christine Labrie qui a fait la demande de ce qu'on appelle un mandat d'initiative qui a malheureusement été refusé. Mais au-delà de ça, c'est une bonne question. Est-ce que la pandémie a fait en sorte que les gens se sont cherchés un certain sens, à s'occuper l'esprit, plutôt que d'être pognés chez eux, ben au moins on pouvait travailler, se former dans un boulot,
ouais.
se tester sa personnalité. Peut-être qu'il y a un peu de ça. En même temps, quand l'étude posait la question pourquoi les gens travaillent, c'était pas pour des besoins de survivance économique. Là. C'est pas parce que les parents n'avaient pas d'argent ou qu'on avait de la misère à manger. C'était pas du tout cette logique-là. C'était pour se donner un peu d'argent de poche, pour aller se faire un caractère, travailler dans le public, développer sa personnalité. Sauf que là, au-delà des cas individuels de telle ou telle personne pour qui ça peut être profitable, puis j'en doute pas, puis je suis pas en train de juger aucunement les parents qui ont autorisé l'enfant à aller le faire, parce que d'ailleurs, en bas de 14 ans, il faut signer un papier hein, pour autoriser un enfant à aller travailler. Moi, je pose la question de la ligne sociale qu'on veut tracer. C'est quoi l'utilité sociale qu'on veut avoir au travail au Québec pour la jeunesse, connaissant les enjeux que ça peut avoir pour la décrochage scolaire, la santé mentale, l'anxiété.
Est-ce qu'on a assez de données? Parce que là on parle de l'étude du CIUSSS de l'Estrie, mais en même temps, je lisais le rapport du Comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre, le CCTM. Ça a été donc déposé le 8 décembre dernier. Puis il disait qu'il n'y avait pas assez de données, qu'on manquait, que le portrait n'est pas clair encore du travail des jeunes adolescents.
Oui, parce que le phénomène de la rareté de main-d'œuvre vient tout bousculer. Hein? Il n'y a pas si longtemps. C'était difficile de se trouver une job à la limite quand on était plus jeune. Moi, je me rappelle, je parlais tantôt d'arbitre de soccer, mais j'avais essayé, j'avais déposé des CV au Provigo du coin ou à l'épicerie, puis je n'avais eu aucun appel qui s'intéressait à moi, parce qu'à cette époque-là, le marché du travail était beaucoup plus rough, beaucoup plus difficile.
C'est ça.
Aujourd'hui, c'est l'inverse. On court après des jeunes pour qu'ils puissent travailler. Donc, ce phénomène-là de la rareté de main-d'œuvre vient accentuer le désir de trouver les adolescents, de les faire travailler. Puis l'espèce d'urgence qu'on a eue à l'entour de ce thème-là, du travail des enfants, est apparue l'an dernier, alors qu'on a eu des rapports de la CNSST qui nous révélait qu'il y avait une explosion d'accidents et de blessures du travail des jeunes adolescents.
Ça, c'est assez clair. Ça, c'est. Oui. Ça...
Ah oui.
Donc,
c'est sûr que si on décide comme société que ça devient normal pour un enfant de 12-13 ans de travailler, mais il va falloir accepter qu'il y a une explosion à peu près incontrôlé du nombre d'accidents du travail.
C'est quel genre de blessure?
Il y a un peu de tout. Ça peut être des blessures banales, comme ça peut être des blessures qui vont vous accompagner toute votre vie, là. Un peu comme n'importe qui, dans le fond. Mais le danger d'un adolescent au travail, c'est souvent que le réflexe de protection n'est peut-être pas le même que quand on a 20 ans, 35 ans, 40 ans. Hein, on se sent un peu plus invincible quand on est un adolescent.
Oui, oui.
Peut-être que les consignes de sécurité sont moins claires. On a peut-être pris moins de temps pour expliquer les consignes de sécurité aussi à un employé qu'on imagine qui sera de passage que quelques mois, quelques années ou tout au plus. Alors, il y a un danger réel là. Moi, j'attends le projet de loi de M. Boulet avec beaucoup d'impatience.
Ben oui.
J'ai la crainte qu'il ne referme pas vraiment la porte comme il a promis de le faire.
On dit souvent qu'il n'y a pas d'âge minimal au Québec, contrairement au reste de notre dominion. Là, il y a plusieurs provinces où on a fixé un âge minimal. Mais il y a quand même trois principes assez clairs. Si on a moins de 14 ans, ben les parents doivent consentir, vous l'avez dit tout à l'heure. Moins de 16 ans, ben impossible d'embaucher pendant les heures normales de classe, pas la nuit non plus. Puis moins de 18 ans, ben normalement, on devrait ne pas avoir de travail qui dépasse les capacités. Donc, il y a quand même déjà un encadrement. Pourquoi c'est devenu insuffisant, selon vous?
On s'entend, hein? C'était pas le vide juridique actuellement. Là, il y a quand même, en effet, des précisions dans les normes du travail et autres, sauf qu'avec la massification du travail chez les adolescents, la hausse importante des accidents de travail, il faut agir. Il faut serrer un peu la vis, je pense, il faut tracer une nouvelle ligne dans le sable et avoir un débat de société. Qu'est-ce qui est le plus profitable pour les adolescents, surtout les jeunes adolescents du premier cycle du secondaire? Est-ce que c'est vraiment utile à 13, 14 ans, 12 ans, d'aller passer plusieurs heures par semaine derrière une friteuse, derrière un comptoir, dans un supermarché, etc.? Est-ce que c'est la meilleure façon qu'on a pour le jeune de se développer? Si les gens cherchent, par exemple, à développer leur personnalité, leur capacité de travailler en équipe, de travailler avec le public, ben il y a du bénévolat qui existe. Puis passez-moi un papier que les gens du milieu communautaire, ils en cherchent de bénévoles. Hein?
Ah oui?
Ah oui, il y a une pénurie de bénévoles partout. Là. Tous les groupes que je visite, là, ils ont de la misère à en trouver puis à les garder. Fait que ça, il y a un...
Mais vous parlez de garder, ils gardent, tu sais, les enfants de 12, 13 ans, ils vont garder beaucoup d'autres enfants, souvent.
Ah, mais oui, je parlais de rétention de bénévoles, mais oui, le gardiennage existe. C'est déjà
à part le bénévolat, c'est ça, il y a ça aussi, ça. Il y a des petits emplois comme ça, là, les gardiens avertis, comme on les appelle.
Ça, dans la loi, ça existe déjà comme exception, puis je pense que tout le monde va être d'accord pour la maintenir.
Oui.
Ce qu'on craint en ce moment, c'est que le ministre, sous pression de l'Association des restaurateurs et des commerçants de détail, va exempter de sa nouvelle loi où il veut fixer un âge minimal à 14 ans, il va exempter l'industrie complète de l'industrie du commerce de détail et de la restauration. Il viendrait redonner par la main droite ce qu'il vient juste de retirer par la main gauche. C'est une espèce de chien qui se mord la queue. Là, c'est un peu bizarre. Pourquoi on intervient législativement, finalement?
Ben, c'est
ça. La bataille, elle est là. On a intervenu beaucoup en chambre. J'ai posé des questions au ministre. Il y a beaucoup de pression dans l'espace public. On va le voir dans les prochaines semaines. Là, le ministre avait promis un dépôt de projet de loi avant la fin mars.
Puis je lisais dans le rapport que le secteur comptant le plus d'accidents de travail chez les jeunes sont le commerce de détail. Les secteurs commerce de détail, hébergement et services de restauration. Ça fait que...
Ben, ça va de soi parce que c'est là qu'ils sont. Hein?
Ben oui.
dans les grosses jobs de bureau ou dans les grosses usines, ça prend beaucoup plus de formation pour manipuler des industries lourdes, par exemple. Donc oui, c'est bien inquiétant. Moi, je pense que c'est pas un débat que je vais approcher avec dogmatisme ou jugement moral. Tu sais, j'en ai plein des témoignages de gens qui envoient leur enfant de 13 ans travailler, qui ont signé le paquet puis qui voient pas de problème. Puis je suis pas en train de leur dire que c'est des mauvais parents, bien au contraire. Je suis en train de me dire, qu'est-ce qui est la meilleure politique publique pour notre société et pour cette génération-là?
Ouais.
Est-ce qu'à ce point, on a besoin d'envoyer une majorité de jeunes de 13 ans dans nos commerces, dans nos épiceries, dans nos dépanneurs? Je suis pas certain. Je pense que c'est mieux de les envoyer ailleurs, de les garder à l'école, de leur donner encore du temps pour jouer. Là. Il y a comme une vertu aussi au jeu là, quand on a 12-13 ans.
Mais
on peut
oui.
sauter à pieds joints tout de suite dans la vie adulte puis dans le travail salarié. Ça viendra bien assez vite.
Mais en même temps, c'est vrai qu'avoir des petits boulots, être camelot ou arbitre, ça peut apporter quelque chose. Il ne faut pas diaboliser le travail. C'est un peu ça que vous dites.
Exactement. Puis il y en aura des exceptions, puis on les regardera ensemble, puis on va être d'accord. Là. Les exceptions en bas de 14 ans par règlement, on peut en mettre. Mais là, si le ministre s'enligne pour faire ce que la rumeur veut qu'il fasse, à savoir exempter l'industrie au complet de la restauration, puis du commerce de détail, là, on n'aura pas... Il va y avoir des flamèches en commission parlementaire, si c'est l'exemple.
Il faudrait comme distinguer le type de travail qu'un enfant de cet âge-là peut faire. Il faut non seulement mettre un espèce de seuil pour la quantité d'heures, mais peut-être aussi de distinguer les emplois qui sont plus aliénants des emplois que d'autres types d'emplois de petits boulots qui peuvent être gratifiants. Je peux garder des enfants, passer le journal ou quelque chose. Ça peut être peut-être plus gratifiant. Être un arbitre aussi, alors que travailler dans un Tim Hortons je sais pas, est-ce qu'il faudrait faire ce type de distinction-là?
C'est quelque chose qui est possible de faire. Il y a déjà des trucs de ce genre-là dans la loi, là, de qu'est-ce qui est permis en ce moment pour les gens en bas de 14 ans. Mais, moi, ce qui m'intéresse dans mon air plus large, si je prenais un pas de recul, là, c'est la question est-ce que notre réponse à la pénurie de main-d'œuvre, c'est d'aller solliciter en quelque sorte le travail des ados de 12-13 ans?
Mm-hmm.
Si c'est ça notre réponse collective à la pénurie de main-d'œuvre, je pense qu'on a quand même un enjeu de société assez important qu'il va falloir qu'on se pose des sacrées questions.
Oui.
Il y a certainement d'autres solutions plus intéressantes, puis peut-être moins dommageables pour l'anxiété des jeunes, puis pour le décrochage scolaire, que ça. Rappelez-vous le débat qu'on a sur le salaire minimum. Combien de fois le ministre me disait « faut pas trop hausser le salaire minimum parce que ça va encourager le décrochage scolaire ». Mais là, toutes les données disent que si on travaille trop, quand on est adolescent, en particulier plus jeune, ça encourage le décrochage scolaire. Fait que là, on aurait refusé d'augmenter le salaire minimum pendant des années à un niveau décent sous prétexte de ne pas favoriser le décrochage scolaire. Mais de l'autre côté, on permettrait la massification et la normalisation du travail à 12-13 ans, alors qu'on sait, selon les données, que ça encourage le décrochage scolaire. Il y a comme un deux poids, deux mesures ici.
Sur les fermes, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, sur les fermes, il y a des enfants qui travaillent. Je me souviens qu'il y avait eu tout un tollé là, parce qu'on voulait réduire à l'Assemblée nationale, je pense, l'utilisation des quatre roues par les enfants. Et ça impliquait justement qu'ils travaillaient sur la ferme. Est-ce que dans les exploitations agricoles, il y a des exceptions aussi?
J'avoue que je connais un petit peu moins. Moi, je suis député de Hochelaga-Maisonneuve. Hein. Il n'y a pas beaucoup de terres agricoles ici.
Vous êtes vraiment un solidaire urbain, là.
voilà, le cliché total. Mais c'est certainement quelque chose qu'il faudrait aborder dans le cadre des audiences. Là, vous me faites réaliser que quand va être le temps de négocier les groupes parlementaires pour les audiences de ce projet de loi-là, il va falloir avoir du monde comme l'UPA ou d'autres personnes du milieu agricole qui viendront nous parler de cette réalité-là que moi, en tout cas, je connais un peu moins.
Bien, c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre les travaux, les consultations, puis les travaux aussi article par article de ce projet de loi qu'on attend quand?
Le ministre parlait d'ici la fin mars. Donc là, on a encore une semaine de circonscription là, qui se termine vendredi. Oui. Ça, il y a l'élection partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne lundi et on se revoit tous avec un beau sourire mardi prochain à l'Assemblée nationale.
Bien, je vous laisse aller chercher votre enfant à la garderie, Alexandre. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Alexandre Leduc est député de Hochelaga-Maisonneuve de Québec solidaire, leader parlementaire aussi de Québec solidaire et porte-parole en matière d'emploi, enseignement supérieur, laïcité et travail. Et c'est ainsi que se termine La Hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.